Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Je vous propose aujourd'hui de parler des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, à l'occasion d'une conférence qui s'est tenue à Paris le 21 mai à la Maison des Arts et Métiers à Paris. On estime que dans le monde, plus de 16 millions de personnes sont victimes tous les ans d'un AVC, un tiers en décède. L'accident vasculaire cérébral est une atteinte soudaine du cerveau due à l'occlusion ou à la rupture d'une artère irriguant le cerveau. Le cerveau est alors privé de sang, donc d'oxygène, ce qui provoque des lésions cérébrales. Cet arrêt temporaire de la circulation dans le cerveau peut entraîner de nombreux troubles du langage, de la compréhension, de la mémoire, de la perception du temps et de l'espace, auxquels s'ajoutent souvent des handicaps physiques. Alors, parmi les personnes qui en survivent, 60% récupèrent une indépendance fonctionnelle, alors qu'il y en a quand même 40% qui gardent encore des séquelles importantes, remettant en cause leur autonomie dans la vie quotidienne. On en parle aujourd'hui avec Denise Dessault, qui est vice-présidente de France AVC, et le professeur Jean-Claude Deharaud, cardiologue, chef du service de rythmologie cardiaque au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille. Nous aurons également au téléphone dans cette émission le docteur Yves Moncam, qui est cardiologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Et on terminera en parlant des difficultés d'accès aux soins des femmes enceintes et des enfants en Europe. Denise Dessault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Professeur Jean-Claude Deharaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Aix-en-Provence dans les studios de France Bleu Provence. Merci d'ailleurs à France Bleu Provence de nous permettre d'établir cette liaison. Professeur Jean-Claude Deharaud, qu'est-ce que finalement qu'un accident vasculaire cérébral ?
Bien écoutez, un accident vasculaire cérébral, vous l'avez bien défini tout à l'heure, c'est la perte de fonction d'un territoire cérébral en raison d'un problème vasculaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir soit un vaisseau qui se bouge, soit un vaisseau qui se rompt, et une souffrance d'un territoire du cerveau. Cette souffrance d'un territoire du cerveau va être responsable d'une perte de fonction qui peut être définitive. C'est l'accident vasculaire cérébral constitué, et dans ce cas-là, il peut y avoir une compensation par des phénomènes de plasticité cérébrale qui vont permettre que l'accident vasculaire cérébral soit totalement régressif, en tous les cas que le patient n'ait plus de symptômes liés à cet accident vasculaire cérébral, ou bien malheureusement qu'il garde quelques séquelles.
Et quelles en sont les causes ?
Alors il y a deux grands groupes de causes. Globalement, c'est soit un vaisseau qui s'est occlu, et un vaisseau qui s'est occlu, eh bien ça peut être dû soit à une pathologie du vaisseau lui-même, et on retrouve là toutes les causes d'athérome, toutes les causes qui rétrécissent la lumière intérieure des vaisseaux.
D'athérome, c'est-à-dire de plaques.
L'athérome, ce sont les dépôts de plaques qui sont essentiellement constitués de cholestérol et dont les facteurs favorisants sont essentiellement l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension artérielle, le tabagisme. Il y a également souvent une notion d'hérédité dans ces histoires vasculaires liées à l'athérome. Donc cet athérome, il va rétrécir progressivement la lumière interne des vaisseaux, et un jour cette lumière interne peut s'occlure. C'est donc une cause.
Le sang passe plus.
Le sang ne passe plus, et on se retrouve à ce moment-là avec un territoire du cerveau qui souffre, parce que le cerveau a la particularité d'être un organe qui est irrigué par des artères qui ne se suppléent pas les unes les autres, sauf lorsqu'il y a occlusion, et à ce moment-là la suppléance se met en place, mais lentement. Donc on perd bien sûr comme ça une partie du territoire cérébral.
Et notre cerveau a besoin d'être irrigué.
Bien sûr. Ça, c'est donc le vaisseau qui s'est bouché. Il y a quelquefois un vaisseau qui va être occlu par un caillot qui provient en particulier du cœur, et les cardiologues sont très concernés par ce problème-là, parce que parmi les causes de caillots qui se forment dans le cœur, il y a les arythmies cardiaques, et en particulier une arythmie qui s'appelle la fibrillation atriale, qui est une arythmie extrêmement fréquente, qui peut donner lieu à la formation de petits caillots à l'intérieur du cœur, et on peut comprendre qu'un caillot qui se forme dans le cœur puisse partir dans la circulation et atteindre la circulation cérébrale, et par conséquent venir boucher une artère qui n'était pas initialement pathologique. Donc ça, ce sont les accidents vasculaires cérébraux par occlusion d'artère. Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Ensuite, il existe des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Ces accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, qui sont moins fréquents, sur environ 20%, les autres représentant à peu près 80%, les hémorragiques sont dus à une rupture d'une artère. Et là, on retrouve comme cause essentielle essentielle, l'hypertension artérielle, parce qu'elle soumet les artères à des régimes de pression qui font qu'à la longue, l'artère est fragilisée, et puis un jour, à l'occasion souvent d'ailleurs d'un à-coup hypertensif, l'artère se rompt.
On va revenir tout au long de cette émission sur les causes, évidemment, parce que ça nous fera évoquer les questions de prévention. On parlera aussi des traitements. Mais j'aimerais donner la parole maintenant à Denise Dessau. Vous avez fait, vous, un accident vasculaire cérébral il y a longtemps. Racontez-nous, c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, j'ai fait un accident ischémique cérébral en 82. C'était
Allez-y.
Oui, c'était la nuit, je me suis réveillée, je travaillais le lendemain pour demander à mon mari l'heure et incapable de lui demander. Donc, mon mari ne m'a pas entendue et je me suis rendormie et le matin, tout allait bien. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un AIT, accident ischémique transitoire. Le matin, je suis partie travailler. Tout s'est à peu près bien passé. Simplement, j'étais professeur, donc je perdais ma craie.
Elle tombait.
C'est donc mon côté s'affaissait. Et puis ensuite, je suis partie jouer au tennis puisque mon mari était là, donc gardait les enfants, et je perdais ma raquette. Bon, je suis rentrée, j'ai parlé de rien à personne. Et l'après-midi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais donc un tas de choses puisque je travaillais.
Et le soir,
je me suis couchée. Mais le matin, simplement l'après-midi, j'ai appelé maman. Parce que quand on a quelque chose qui va mal, on appelle souvent sa maman. Et elle m'a pas dit grand-chose, mais elle a appelé le matin à 8h30. À 8h30, je dormais encore, ce qui était impossible avec trois jeunes enfants qui avaient 8 ans, 5 ans et 6 mois. Et donc mon mari m'a passé le téléphone, impossible de lui parler. Ça, c'est une des causes. Hein, je disais un jargon. J'étais pas muette, mais je disais un jargon. Donc mon mari là a commencé à s'affoler. Il est allé. Alors là, il a fait des fautes alors qu'il était officier de sapeurs-pompiers. Il est allé simplement chercher le médecin, mais c'était un dimanche, donc il est allé voir le médecin de garde. Il est arrivé tout de suite et c'est lui qui m'a envoyé à l'hôpital. Donc mon mari, au lieu de faire venir les pompiers, il m'a conduit lui-même. Donc, en attendant...
Et la prise en charge, une fois que vous êtes arrivée à l'hôpital?
Ça a été mal, mais c'était en 82. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux.
C'est qu'on avait du mal à imaginer que vous étiez en train de faire un AVC.
Oui, parce que
vous
marchais.
Jeune.
Je marchais et parce que j'étais jeune. Mmh. J'avais 35 ans. Je pesais 30 kilos en moins. J'étais bien. Enfin, donc, je n'avais jamais eu de problème de santé. Et donc là, mon mari a même eu du mal à me faire entrer en neurologie. Donc il a insisté et j'avais un mot du médecin de garde comme quoi il fallait que j'entre en neurologie. Mais simplement, j'ai pas vu de neurologue tout de suite. Hein. Je n'ai vu un neurologue que le lundi matin. Alors que maintenant, puisque vous savez qu'il y a les UNV, unités neurovasculaires, là, on est bien pris en charge quand on y arrive.
Voilà. Je voudrais faire réagir à ça, professeur Jean-Claude Dehareau. Quelles sont justement les personnes à risque?
Alors les personnes à risque, il y en a certaines qui se connaissent, c'est celles qui sont porteuses des facteurs dont on a parlé tout à l'heure, l'hypertension artérielle, le diabète, celles qui malheureusement sont tabagiques et n'ont pas réussi à s'arrêter de fumer, celles qui sont porteuses d'une hypercholestérolémie, il y a les gens qui ont une hérédité. Ces personnes-là se connaissent comme étant à risque, mais on a beau se connaître comme étant à risque, on ne peut pas imaginer qu'on va faire un accident vasculaire cérébral. Et c'est d'ailleurs l'histoire que nous raconte Denise est une histoire extrêmement fréquente, parce que les patients ne sont pas conscients du trouble qui est en train de s'installer, puisque par définition, la partie du cerveau qui perd sa fonction ne s'exprime plus. Oui. Et c'est toute la difficulté de la mise en évidence de l'accident vasculaire cérébral. Et puis il y a des personnes à risque qui ne le savent absolument pas, ce sont les gens qui sont porteurs d'une fibrillation atriale, cette arythmie dont on a parlé tout à l'heure, et qui est très souvent silencieuse. Donc celles-là ne savent même pas qu'elles ont finalement à l'intérieur du cœur un risque énorme de fabriquer un caillot qui pourra à un moment partir vers la région cérébrale.
Et justement, c'est cette arythmie, elle est due à quoi ?
Alors l'arythmie elle-même peut être due à des cardiopathies, des maladies du cœur, mais bien souvent, dans à peu près un quart des cas, elle survient chez des gens qui n'ont strictement aucune cardiopathie et qui peuvent être des gens très jeunes et des gens en parfaite santé par ailleurs.
C'est ça, sportif.
Tout à fait, absolument.
Et comment on peut savoir justement si on a une arythmie? Comment ça se diagnostique?
Alors, la preuve de l'arythmie ne s'obtient que par la réalisation d'un enregistrement électrocardiographique, un électrocardiogramme, pendant l'arythmie. C'est la seule façon pour un médecin de pouvoir affirmer à 100% que le patient est porteur d'une
Mais pendant l'arythmie, ça veut dire qu'on peut très bien avoir des phases sans arythmie?
Absolument. L'arythmie n'est pas toujours permanente. Ça veut dire qu'on peut très bien aller chez son médecin tout à l'heure, faire un électrocardiogramme et qu'il soit tout à fait normal.
Et c'est là,
justement, et il vous dit tout va bien. Et c'est là toute la difficulté. Donc si le patient a des symptômes qui sont évocateurs de l'arythmie, le médecin va rechercher par différentes méthodes d'enregistrement prolongé de l'électrocardiogramme l'arythmie, et on va peut-être un jour tomber sur l'arythmie et arriver à l'enregistrer. Mais là où les choses sont plus embêtantes, c'est quand le patient n'a strictement aucun symptôme. Alors il y a des campagnes aujourd'hui, on se dit que si les gens apprenaient à se prendre le pouls et étaient capables de reconnaître une anomalie de la prise du pouls, ils pourraient peut-être aller consulter. Ce sont des campagnes, ce sont des suppositions que l'on fait. On n'a pas aujourd'hui la certitude qu'on puisse facilement faire le diagnostic. Donc aujourd'hui, ça reste très fréquemment sous-diagnostiqué, la fibrillation atriale.
On y reviendra justement sur toutes ces questions de symptômes. Vous nous apprendrez peut-être à prendre notre pouls, justement. On y revient dans un instant.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, avec le professeur Jean-Claude Deharaud du CHU de la Timone à Marseille et Denise Dessau. On a au téléphone Neville qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Neville, bonjour.
Bonjour Madame Claire. Bonjour Priorité.
Alors Neville, la ligne téléphonique avec Kinshasa n'est pas très bonne, donc vous parlez bien fort pour qu'on vous entende.
Je disais bonjour auditeur RFI, bonjour docteur.
Allez-y, Neville, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez fait, je crois, un AVC, c'est ça?
Oui, j'avais fait l'AVC en 2012, et puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à prendre les produits. Mais heureusement pour moi, quelques mois après, j'étais complètement rétabli. J'ai continué à prendre des produits, le médecin m'explique. Et ma question était la suivante, est-ce qu'il arriverait un moment où je peux arrêter à prendre des produits?
C'est ça, mais les médicaments que vous prenez, pour qu'on comprenne bien, c'est des médicaments contre la tension, contre l'hypertension.
Oui.
C'est bien ça, Neville. Alors, professeur Jean-Claude Deharaud, justement, quand on a des problèmes de tension artérielle, d'hypertension, est-ce qu'il faut finalement continuer à prendre ces traitements à vie?
Alors, c'est une excellente question. Je crois que l'hypertension artérielle était un fléau, et je parle à l'imparfait, était un fléau tant que l'on n'avait pas des traitements efficaces contre cette pathologie. Et depuis maintenant une trentaine d'années, on peut dire qu'on a des traitements efficaces et que le pronostic d'un patient hypertendu est comparable à celui d'un patient non hypertendu si le patient hypertendu prend son traitement et s'il le prend de façon continue, sans interruption, parce que l'hypertension artérielle, à part dans certains cas tout à fait exceptionnels, n'est pas une pathologie réversible. C'est une pathologie qui doit être en permanence compensée par le traitement. Donc il n'est pas question d'interrompre un traitement, sauf si l'on se trouvait dans le cas exceptionnel d'une hypertension artérielle dite secondaire et par conséquent réversible.
C'est ça, mais donc il faut continuer à prendre ces traitements justement pour contrôler sa tension. C'est bien ça
le but. Absolument. Voilà. On ne peut absolument pas interrompre un traitement pour l'hypertension artérielle. Et je dirais d'autant plus que l'on a fait un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire que les artères ont été exposées depuis longtemps à de l'hypertension. Et il faut vraiment ne plus surcharger, ces artères, par l'hypertension.
C'est ça. On est en fait encore plus à risque quand on en a déjà fait un AVC, c'est ça?
Absolument. Un patient qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral, quel qu'en soit le mécanisme, est un patient plus exposé que les autres à une récidive s'il ne prend pas le traitement, bien entendu, parce que si un traitement est mis en œuvre, on peut tout à fait imaginer que la cause disparaisse ou en tous les cas soit contrôlée.
D'où l'intérêt de ces traitements. J'espère qu'on vous a convaincu, Neville. Merci beaucoup pour votre question. On a Yvan qui nous appelle aussi de Kinshasa en RDC. Yvan, bonjour. Vous avez aussi, vous, fait un AVC, je crois.
Oui, oui.
On vous écoute, Yvan.
Oui, c'est sûr. Oui, oui. J'ai fait un AVC hémorragique l'année passée, au mois de juillet. Et je suis hypertendu depuis que j'avais 10 ans, parce qu'actuellement, depuis que j'avais 40 ans, parce que maintenant j'ai 46 ans, c'est à 40 ans que j'ai commencé à faire l'hypertension. Et j'étais suivi par mon médecin traitant. Et l'année passée, au mois de juillet, j'ai fait un AVC hémorragique. À la suite de ça, j'étais immédiatement conduit à l'hôpital. Et puis, un jour après, j'ai perdu connaissance. Heureusement, il y a un neurochirurgien à mes côtés qui est intervenu 7 jours après. Il a fait une neurochirurgie au niveau de la tête et du côté gauche. Alors, depuis, je me suis rétabli. J'ai repris pratiquement toutes les activités et j'ai conduit déjà. Seulement, j'ai des interminables maux de tête. Des interminables. Et il y a mon cardiologue qui m'a dit un traitement. Je prends 4 antihypertenseurs différents. Et quand j'ai des petits collègues, la tension augmente.
Est-ce que vous arrivez, est-ce qu'avec tous ces médicaments, justement, vous arrivez à contrôler votre tension ou elle reste élevée?
Pardon?
Est-ce que vous arrivez avec tous ces médicaments à contrôler votre tension ou est-ce qu'elle reste élevée?
Tout à fait. J'ai un tensiomètre permanent. Je ne le quitte jamais. Il m'arrive aussi d'aller à l'hôpital pour prélever la tension auprès des services médicaux de la place. Mais sinon, de manière générale, quand je prends régulièrement ces médicaments, je n'ai pas de problème de tension. Mais il suffit d'avoir une petite colère ou un petit souci, vite, la tension monte. Et c'est ce qui m'inquiète.
Ouais.
C'est
pourquoi et Yvan, juste une dernière question avant que le professeur Jean-Claude Dehaeau vous réponde. Et vous prenez bien vos traitements?
Oui,
vous êtes un patient observant. Professeur Jean-Claude Dehaeau, cette question, effectivement, deux choses, hein, des maux de tête et puis des moments de colère où du coup la tension remonte, il y a un lien, effectivement?
Eh bien, bon, les maux de tête, c'est probablement la séquelle de l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire d'Ivan, c'est une histoire classique d'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau qui se rompt, il y a une flaque de sang qui se constitue, et heureusement, on décomprime le cerveau après quelques jours parce qu'il y en a besoin et parce que le cerveau se trouve comprimé par cet épanchement sanguin qui s'est constitué. Donc, par chance, il n'y a aucune séquelle, ce qui est déjà extraordinaire, en dehors de ces maux de tête. Alors, je crois que il faut essayer de voir ça avec le neurologue qui a pris en charge Yvan, voir s'il y a une cause particulière sur laquelle on pourrait jouer. Mais il est probable que ce soit une séquelle et il va falloir mettre en place des traitements. Mais ce sont à mon avis des traitements antalgiques, hein, à visée cérébrale, qu'il faudra mettre en place parce que le traitement antihypertenseur lui joue sur la tension. Et je pense qu'Yvan est bien contrôlé sur le plan tensionnel et que les maux de tête ne sont pas la cause de l'hypertension, ne sont pas liés à l'hypertension artérielle, mais sont liés plutôt à la séquelle d'accident vasculaire cérébral. Donc j'aurais plutôt tendance à me porter vers des traitements antalgiques. Après, pour le deuxième aspect qui concerne le traitement de l'hypertension artérielle, 4 antihypertenseurs, ça veut dire que Yvan est un patient qui est un hypertendu sévère. S'il est bien contrôlé avec 4 antihypertenseurs, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même être très vigilant, parce que quand on a besoin de 4 médicaments pour contrôler la tension, il faut aller chercher certaines causes particulières d'hypertension artérielle, mais bien entendu, les cardiologues d'Yvan ont dû le faire, et il faut être vigilant.
Et ces petits moments où la tension remonte, dans des moments justement de colère, c'est pas forcément très grave ça, quand c'est juste ponctuel?
Non, ben là, Yvan, il est en train de nous dire qu'il a compris. Il a compris que c'est parce que il est pas toujours très, très calme, et personne n'est calme en permanence, que de temps en temps, la tension remonte. Donc le remède, il est tout trouvé. Le remède, c'est d'essayer de se relaxer, de se détendre un petit peu, et d'éviter justement ces moments de colère. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein.
D'être le plus zen possible. Merci beaucoup, Yvan, pour cette question. Professeur Jean-Claude Dehaeau et Denise Dosson, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. On parlera plus longuement de la prise en charge et de la rééducation.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, avec Denise Dessault, qui est vice-présidente de France AVC, le professeur Jean-Claude Dehareau, qui est cardiologue, chef du service de rythmologie cardiaque au CHU de la Timone à Marseille. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Nous avons au téléphone le docteur Yves Moncam, qui est cardiologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Il est vice-président de la Société camerounaise de cardiologie. Docteur Moncam, bonjour.
Oui, bonjour Claire, bonjour Madame Dessault et bonjour au professeur Dehareau.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence des AVC au Cameroun?
Alors, je me suis...
On a des problèmes de ligne téléphonique, elle n'est pas très bonne.
Mes collègues neurologues, ouais. Et donc il n'y a pas d'études qui permettent de préciser la prévalence de l'AVC au Cameroun. Néanmoins, 45% des motifs d'hospitalisation en neurologie sont dus aux accidents vasculaires cérébraux.
Donc on voit que c'est fréquent, même très fréquent. Quelles sont les difficultés de prise en charge auxquelles vous êtes confrontés?
Alors, la difficulté de prise en charge, c'est-à-dire, disons qu'il n'y a pas suffisamment de services et de soins intensifs. Donc, la plupart du temps, lorsque les malades arrivent, bon, lorsqu'il peut y avoir un service de soins intensifs ou bien un service de neurologie, ils sont pris en charge dans ces services-là, sinon ça se passe dans des services de médecine.
Quels sont les conseils que vous donnez et qu'il faudrait donner aux auditeurs qui nous écoutent en termes de prévention? Parce qu'on sait bien que sur le continent africain, une bonne partie de ces AVC sont dus à des problèmes d'hypertension, une hypertension qui est très fréquente.
Oui, alors effectivement, alors l'hypertension est retrouvée dans 85% des accidents vasculaires cérébraux au Cameroun, que ce soit les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, 55% d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques, ou les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, 45%. D'accidents cérébraux vasculaires hémorragiques. Et donc, la plupart du temps, que ce soit ischémie ou hémorragie, l'hypertension est toujours en première ligne. Donc, ce que l'on doit conseiller aux populations, c'est de faire contrôler donc, la tension une ou deux fois par an, parce que trop souvent, les patients sont vus au stade de complications.
Et vous avez l'impression que la population a conscience de ce problème, de ce danger?
Disons que, comme l'accident vasculaire cérébral est quelque chose de spectaculaire, chacun dans son entourage a quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral. Donc, comme ça, on arrive de plus en plus à sensibiliser les gens, à leur expliquer que s'ils ne se sont pas dépistés, s'ils ne sont pas pris en charge, il peut leur arriver la même chose. Donc, il y a des campagnes qui sont faites d'information, donc de sensibilisation pour pousser les gens à faire contrôler leur tension artérielle, à faire contrôler leur glycémie, parce qu'on retrouve quand même un diabète chez 20% des accidents vasculaires cérébraux.
Et ça, je voulais vous faire réagir là-dessus d'ailleurs, professeur Dehareau. Le grand public n'a pas toujours conscience qu'il peut y avoir un lien justement entre diabète et maladie cardiaque.
Bien, le diabète, c'est une pathologie qui se complique très fréquemment de pathologies vasculaires. C'est-à-dire que, à cause du diabète, on va se trouver avec une prévalence beaucoup plus importante de l'athérome dans les vaisseaux. On en a parlé tout à l'heure de l'athérome.
Ces plaques.
Et le diabète est un des facteurs de risque les plus marqués de cet athérome. Donc, effectivement, il faut que les patients comprennent bien qu'un déséquilibre glycémique, donc une anomalie finalement sanguine où le sucre est en quantité plus importante dans le sang, un déséquilibre glycémique va se traduire à long terme par des problèmes artériels et les diabétiques qui sont diabétiques depuis très longtemps le savent malheureusement bien. Ce sont les artères souvent des membres inférieurs qui sont atteintes, les artères coronaires, les artères du cerveau, également les artères rénales et les artères des yeux. Donc finalement des organes qui sont extrêmement importants.
Oui c'est ça, et tous ces organes sont abîmés justement à cause des artères. Professeur de Haro, on vient d'entendre avec le docteur Moncam qu'il y avait beaucoup de gens en Afrique qui n'avaient pas conscience forcément d'être hypertendus. J'imagine qu'on a la même chose en France, un certain nombre de gens qui ne savent pas qu'ils sont hypertendus, donc pas traités.
Alors, on a la même chose en France. Bon, il faut bien sûr tenir compte du fait que l'accès aux soins est un peu plus facile en France. Et on peut imaginer que toute personne rencontre une fois par an son médecin traitant à partir d'un certain âge.
Et médecin traitant qui est censé prendre l'attention à chaque fois.
Absolument, médecin traitant qui prend l'attention à chaque fois
et qui est un
vecteur très important du dépistage de l'hypertension artérielle, parce que l'hypertension artérielle c'est souvent méconnu. On ne sait pas qu'on a une pression trop élevée dans ses artères tant qu'on n'a pas une complication, comme le disait tout à l'heure le docteur Moncam. Il ne faut pas attendre d'avoir cette complication. Donc il faut savoir dépister la pathologie bien en amont et toutes les études ont montré que la prise de la tension artérielle systématique par les médecins et puis ensuite, par les patients, quand il y a une anomalie, on demande aux patients de faire ce qu'on appelle l'automesure. Eh bien, cette prise de tension artérielle est un élément fondamental de la prise de conscience d'une pathologie qui était souvent méconnue.
Merci, docteur Moncam, d'être intervenu. Et je retiens votre conseil. En tout cas, vous dites que vous donnez aux patients, c'est de consulter une à deux fois par an, justement, pour prendre sa tension régulièrement. Professeur De Haro, j'aimerais bien qu'on parle. On va revenir sur la prise en charge des AVC, toute la question de la rééducation, mais qu'on dise tout de suite un mot sur les moyens de prévention. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, il y a des moyens de prévention.
Alors, il y a des moyens de prévention en citant toutes les causes d'accidents vasculaires cérébraux. On s'est probablement rendu compte que toutes ces pathologies sont des pathologies qui sont accessibles à une prévention. Alors, on a aussi signalé tout à l'heure qu'il y avait pour certaines de ces pathologies des formes qui sont des formes sans symptômes, asymptomatiques et donc méconnues. Alors là, c'est difficile de faire de la prévention. Mais quand il y a un facteur de risque avéré, il faut le corriger. Et ça, les patients doivent bien le comprendre, et il faut que les médecins arrivent à faire passer le message, parce que on est à ce moment-là bien en amont de l'accident, bien en amont de quelque chose qui sera grave, qui laissera quelquefois des séquelles irréversibles, et on a la possibilité d'éviter que l'accident ne survienne. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut intervenir, et il faut inciter les gens à arrêter leur intoxication tabagique, à contrôler correctement leur glycémie quand ils sont diabétiques, à contrôler correctement leur chiffre de tension artérielle quand ils sont hypertendus, à contrôler correctement leur cholestérolémie quand ils sont hypercholestérolémiques, et puis quand il y a des pathologies cardiovasculaires et cardiaques notamment, à les traiter.
Et arrêter le tabac. Hein. Le tabac arrêter tue 1/2 de ses consommateurs. On peut le répéter à peu près dans chaque émission. Et docteur Moncam, je suis désolée, il paraît que vous vouliez rajouter quelque chose. Je vous écoute.
Oui. Alors je voulais rajouter que nous avons dans nos données hospitalières que l'alcoolisme est retrouvé chez 30% des personnes qui font un accident vasculaire cérébral.
Donc l'alcool est aussi un risque, professeur De Haro?
Ben, l'alcool, c'est malheureusement un poison, tout le monde le sait, quand il est consommé abusivement. Et parmi les conséquences de l'alcoolisme, on trouve des atteintes vasculaires, on trouve l'hypertension artérielle qui est souvent associée à la consommation excessive d'alcool. Et puis on trouve des arythmies cardiaques, la fibrillation atriale par exemple est très facilement induite par la consommation excessive d'alcool. Donc il n'est pas surprenant qu'on retrouve cette consommation alcoolique trop importante chez de nombreux patients, comme le signale docteur Moncam.
Donc dans les conseils d'hygiène de vie, c'est aussi effectivement limiter l'alcool. Merci, docteur Moncam.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Jean-Claude de Haro, je voudrais bien qu'on revienne sur la prise en charge des AVC en deux temps. La prise en charge, je dirais, au moment de l'accident vasculaire cérébral et puis après aussi toute la question de la rééducation. Alors, qu'est-ce qui doit être fait?
Alors, la prise en charge immédiate, on a vécu une véritable mutation ces dernières années avec la mise en place de ce qu'on appelle des unités neurovasculaires. Les unités neurovasculaires, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ça veut dire que ce sont des unités qui sont vraiment dédiées à la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, qui sont en quelque sorte des unités qui attendent malheureusement, que le patient arrive. Et c'est ce que signalait tout à l'heure Denise, c'est que dès que le patient a les premiers symptômes, il faut prévenir le 15. Il faut prévenir le 15, on prend en charge le patient et on le dirige immédiatement vers ces unités très spécialisées.
Et on peut juste comprendre... pour revenir sur ces symptômes, c'est justement ce que nous disait Denise tout à l'heure, des difficultés de parole.
Absolument, des difficultés de parole et puis des difficultés également dans les gestes. Hein. Oui, Denise nous disait tout à l'heure qu'elle perdait sa craie, qu'elle perdait sa raquette. Il y avait une hyper somnolence finalement qui s'était aussi installée puisqu'elle ne s'était pas réveillée. Et il y avait cette difficulté de parole. Donc la parole et les gestes sont souvent des signes annonciateurs du fait qu'un accident vasculaire cérébral est en train de se constituer. Et puis après, dans certaines formes, bien sûr, il y a des troubles de la conscience aussi. Mais il ne faut pas attendre les troubles de la conscience pour faire le diagnostic d'accident vasculaire cérébral.
Et alors, il y a une prise en charge hospitalière sur le moment, pour je dirais, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Alors, la prise en charge hospitalière, elle est très stéréotypée. D'abord, il y a des hyper spécialistes qui vont recevoir le patient. Donc, on ne sera pas confronté au problème dont parlait Denise tout à l'heure, d'un retard peut-être de reconnaissance. Parce que là, on a des gens qui font que ça toute la journée, qui par conséquent connaissent très bien tous les symptômes de la pathologie. Prise en charge immédiate, décision immédiate de faire de l'imagerie, c'est-à-dire d'aller regarder ce qui se passe au niveau du cerveau en utilisant notamment l'IRM, hein, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet avec une précision extrême de savoir quel est le territoire qui est atteint, si c'est une hémorragie, si c'est une ischémie, et de prendre des décisions thérapeutiques. Ces décisions thérapeutiques, ça peut être d'aller essayer de déboucher l'artère concernée en utilisant des produits qu'on appelle des produits thrombolytiques qu'on va perfuser. Hein, et bien sûr, tout ça se fait sous un contrôle extrême parce qu'il ne faudrait pas, en voulant aller déboucher l'artère, créer une hémorragie cérébrale. Donc tout ça se fait de façon extrêmement contrôlée. Et quelquefois, on peut même être amené à faire des manœuvres mécaniques à l'intérieur des artères, c'est-à-dire à monter des sondes dans les artères pour aller déboucher. Mais enfin, la plupart du temps, c'est la thrombolyse. Donc l'unité neurovasculaire, c'est ça. C'est une unité qui comprend tout de suite ce qui se passe, qui évalue immédiatement et qui met en place immédiatement le traitement le plus adapté.
Je voudrais bien maintenant justement qu'on parle de cet après, une fois qu'il y a...
Je vous prie de m'excuser. Et tout ça, c'est une course contre la montre.
Oui, il faut agir très vite.
Voilà, il y a un chronomètre qui se met en marche au moment où le patient arrive et il va falloir très vite sauver du territoire cérébral parce qu'en gros, quand on aura passé une heure, deux heures, trois heures avec un territoire cérébral qui souffre, eh ben, les séquelles peuvent être importantes.
Voilà. Et alors justement, quand il y a des séquelles, il y a rééducation. Je voudrais qu'on parle de ça avec vous, Denise Dessault. Comment s'est passé pour vous la rééducation? On a compris qu'il y avait eu un problème de parole. Est-ce qu'il y a eu aussi paralysie? Quelles ont été les conséquences physiques?
Pour la paralysie, je n'ai pas dû me faire soigner par la suite. Ça s'est arrangé. Mais pour la question de parole, je suis allée chez l'orthophoniste pendant 3 ans.
3 ans d'orthophoniste.
3 ans d'orthophonie. Mais moi, je ne voulais pas aller à l'orthophoniste du coin où j'aurais vu des enfants. Je suis revenue à l'hôpital. Je ne sais pas si maintenant c'est encore possible, mais à l'époque c'était possible.
Pour avoir quelqu'un de spécialisé,
voilà,
finalement,
qui avait fait de...
Et qu'est-ce que vous avez appris? Vraiment réappris à parler?
J'ai réappris à parler, c'est-à-dire qu'en plus j'ai eu des problèmes de mémoire, puisque j'avais oublié ma dernière fille. Hein, je ne savais plus ni mon nom, hein, ni où
vous
j'habitais.
Vous ne connaissiez pas votre mari?
Ah non. Si, il était là, il est venu me voir, mais bon. Hein. Maman, je la reconnaissais, mais mes frères aussi. Mais sur le plan de la mémoire actuelle,
donc
j'avais récente.
Vous étiez prof d'anglais,
j'avais oublié l'anglais. Pendant 18 mois, j'ai appris le français, et au bout de 18 mois, l'orthophoniste m'a fait un test d'anglais, c'était le fiasco. Donc je suis retournée en Angleterre, j'ai encore remis mes enfants chez ma belle-sœur, parce que c'est ma belle-sœur qui a pris mes enfants au départ. C'était à 150 km de moi. Et ma belle-sœur était instite, donc elle les a mis dans son école, enfin les deux aînés dans son école. La petite est allée à une nourrice tout près de maman. Enfin, donc, mon mari ne pouvait pas les garder puisqu'il était officier de pompier, donc souvent parti. Hein, donc, les enfants ont souffert également,
de ça,
et moi
sûr.
Aussi.
Et vous aussi, bien sûr, bien sûr. Au bout de 3 ans, vous avez repris votre travail?
Alors, j'ai repris le boulot au bout de 3 ans.
Comment ça s'est passé?
Ben,
parce que c'est pas facile, en plus,
non,
le boulot de prof.
Mais j'étais prof, donc j'ai pris justement un congé de longue durée pour maladie pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il fallait que je reprenne, sinon j'ai été mis...
Vous perdiez votre poste?
Je perdais le poste, voilà.
Et
voilà.
Comment s'est passée la reprise du travail?
Oh, la première année, ça a été très dur.
Vous étiez fatiguée?
Très fatiguée, très très fatiguée. Et puis ma principale a voulu me remettre les classes que j'avais auparavant. Elle aurait dû plutôt me mettre des 6e et des 5e plutôt que me remettre des 3e.
Qui sont un peu difficiles.
Qui sont un
peu
difficiles.
Aujourd'hui, vous donnez l'impression de n'avoir aucune séquelle. C'est la réalité?
Mais normalement, je n'ai pas de séquelles. Mais lorsque je suis un peu fatiguée, je mélange un peu les mots. Hein, mais j'essaye de me reposer. J'ai une faculté de récupération assez rapide. Donc.
Mais vous êtes un bel exemple de rééducation qui a réussi.
Bien entendu. Bien entendu.
Mais c'est pas.
C'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Voilà, professeur De Haro, est-ce qu'on progresse justement dans cette rééducation?
Mais on progresse dans la rééducation parce que on a bien compris qu'il fallait là aussi des spécialistes et que l'orthophoniste qui s'occupe d'un problème du langage chez l'enfant n'est pas forcément l'orthophoniste qui s'occupe d'un problème d'AVC. D'un adulte après un accident vasculaire cérébral. Donc là, aujourd'hui, les unités neurovasculaires ont aussi cette fonction de diriger ensuite les, d'abord de les prendre en charge aussi dans les jours qui suivent avec une kinésithérapie, avec une orthophoniste qui vient voir les patients quotidiennement et qui donne les premiers conseils, avec la reprise d'une alimentation chez quelqu'un qui quelquefois a le risque de faire des fausses routes. Et bref, cette reprise, donc cette suite immédiate d'accident vasculaire cérébral dans l'unité neurovasculaire est le prélude à la rééducation qui va durer très 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 longtemps. Et l'unité neurovasculaire dirige vers des centres qui sont des centres spécialisés et dans la plupart des régions de France, il y a des centres qui s'occupent exclusivement d'accidents vasculaires cérébraux, qui sont des centres de rééducation neurologique. Et dans ces centres-là, on trouve bien sûr le personnel le plus qualifié.
Alors, elle est très importante cette rééducation, hein, parce que.
Elle est fondamentale. On se retrouve avec des progrès qui vont se faire sur plusieurs années. Donc on n'est pas du tout en train d'espérer que en un mois, deux mois, le patient reprenne tout ce qu'il a récupère tout ce qu'il a perdu. C'est pas comme si on se rééduquait d'un accident ou comme si on se rééduquait d'une chirurgie. Là, on est vraiment en train de reconstruire des réseaux dans le cerveau pour récupérer des choses qui étaient présentes et qui pour certaines ont disparu, comme nous le raconte Denise.
Je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question dont vous nous avez parlé tout à l'heure, parce que vous êtes spécialiste de ça, d'arythmie cardiaque qui peut provoquer justement des AVC. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les symptômes de cette arythmie qui pourrait alerter, et puis surtout quelle est la prise en charge quand on la découvre, quand on la diagnostique?
Alors, les symptômes de l'arythmie, on l'a dit tout à l'heure, il y a malheureusement beaucoup de patients qui sont totalement asymptomatiques. Ceux qui ressentent des symptômes, ce sont ce qu'on appelle des palpitations. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation de leur cœur qui bat de façon tout à fait anormale, de façon totalement anarchique dans le cas de la fibrillation atriale. Et les patients viennent nous voir parce que, comme ça, leur cœur tout d'un coup se met à faire n'importe quoi, à se dérégler, comme ils disent. Ils s'emballent, mais ils s'emballent sur un mode complètement déréglé. Hein. Donc, ils disent, ils battent la breloque. Enfin, il y a plusieurs façons pour les patients d'écrire les choses. Mais en tout cas, ils ont vraiment l'impression qu'à un moment, le rythme cardiaque devient tout à fait anarchique, tout à fait chaotique. Alors, quand il y a ces symptômes-là, nous, on évoque, bien sûr, cette pathologie et on va la rechercher. Quand il n'y a pas ces symptômes-là, il faut savoir se prendre le pouls. On en a parlé
tout à l'heure. Ah oui, alors, on fait comment?
Voilà. Alors, bon, on fait comment? Alors, c'est difficile, là, à la radio, d'expliquer où il faut mettre les deux doigts de la main gauche dans la région qui est au-dessus du pouce de la main droite.
C'est ça, alors, c'est les deux doigts de la main gauche, c'est pas le pouce?
Non, c'est pas le pouce, parce que le pouce est un peu moins sensible au niveau de la pulpe du doigt, donc on préfère utiliser les deux doigts, l'index et le majeur de la main gauche quand on est quand on veut se prendre le pouls à la main droite ou l'inverse bien sûr, et on se positionne donc sur le poignet légèrement au-dessus du pouce sur le poignet et sur la face palmaire, c'est-à-dire sur la face du poignet qui est en regard de la paume de la main,
hein, intérieur,
sur l'autre côté, voilà l'intérieur ou la voilà, on positionne donc ses doigts à cet endroit-là, au-dessus du pouce, là, dans un creux, et on doit ressentir normalement chaque impulsion du passage du sang dans le vaisseau.
J'essaye de le faire, et après on compte?
On n'a pas besoin de compter. C'est ça qui est important. Pour l'arythmie, c'est pas la notion de fréquence cardiaque qui est importante. C'est pas de savoir si vous êtes en ce moment à 70 ou à 80 ou à 90 parce qu'on est peut-être en train de vous stresser pendant l'émission, là, je sais pas.
Ça va.
Ça va. Donc, si vous êtes très détendu, vous serez peut-être à 60. Et puis, si vous êtes, vous venez de faire un effort, vous serez à 80. Mais tout ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vos battements sont réguliers ou irréguliers. Et la fibrillation est tellement anarchique que l'irrégularité se perçoit tout de suite.
Ah d'accord.
Donc c'est pas voilà. Donc c'est pas facile bien sûr pour un patient par rapport à un médecin qui fait ça tout le temps, mais ça peut être un premier signe d'alerte. Et il y a des campagnes qui se font dans d'autres pays, on envisage de les reproduire dans les nôtres, qui sont des campagnes de un jour la prise du pouls par tout le monde sur une journée simplement, et on arrive comme ça à dépister des choses.
Et alors, on prend en charge comment après? Quand il y a un problème d'arythmie.
Oui. Alors, je termine juste. Pardon. Je voudrais dire, non, pas du tout. Mais on a mis en place dans notre région ici une expérience, mais une expérience qui peut être reproduite très facilement. On avait mis en place le fait que les médecins généralistes, indépendamment de la raison pour laquelle les patients viennent les voir, que ce soit pour une grippe ou que ce soit pour autre chose, leur prennent le pouls aussi. Alors, ils le font en général. Mais là, ils le font de façon un peu plus attentive pour savoir s'il y a de la fibrillation atriale. Et on a dépisté comme ça beaucoup de cas de fibrillation atriale qui étaient totalement méconnus du patient et totalement connu du médecin. Alors, pour répondre à votre question, vous me disiez ensuite que doit-on faire, c'est ça?
Oui, exactement. Voilà.
Alors, c'est assez facile à comprendre. La fibrillation atriale, c'est un cœur qui se met à battre de façon anarchique, qui brasse moins bien le sang et qui risque de voir apparaître des petits caillots à l'intérieur des oreillettes, qui sont des cavités du cœur. Pour éviter que ces petits caillots ne se forment, eh bien, il faut utiliser des traitements fluidifiants du sang, ce qu'on appelle des anticoagulants. Et ces anticoagulants, il faut les prendre de façon continue pour que le sang soit fluidifié, et on diminue comme ça considérablement le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral.
Un traitement tout simple. Je voudrais juste une dernière question, Denise Dessau. Finalement, que fait France AVC? Quel est le rôle de cette association?
Alors, France AVC, le premier objectif, c'est de faire de la prévention. C'est-à-dire que nous avons 42 associations en France, pour l'instant, 45 bientôt, et chaque association fait des
un travail de prévention,
travail
d'information,
de,
ce qu'on fait là,
voilà,
finalement.
Exactement.
Les autres actions,
voilà.
Donc, prévention.
Alors,
donc la prévention, après
oui,
ça, aider aussi dans la prise,
voilà,
dans la prise en charge.
Exactement. Et puis le soutien au public, enfin
à
ceux qui ont fait un AVC.
Parce qu'effectivement, c'est dur psychologiquement.
Oui.
On arrive vraiment
l'aide
à la fin.
À la recherche aussi.
On arrive à la fin de cette émission. Peut-être juste un mot de conclusion, professeur De Haro, avant que je donne la parole à Médecins du Monde.
Bien, non, je voudrais dire que ce qu'on a fait là, c'est très très important. On a écouté plusieurs patients qui ont souffert d'accidents vasculaires cérébraux, et on a essayé d'en tirer des enseignements, et on se rend compte que il y a encore une marge importante de progrès en termes de prévention, de traitement, de prise en charge ultérieure. Donc je remercie vraiment les patients qui sont
entrés
en communication avec nous.
Parce que c'est très important, et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre. Ils étaient d'autres d'ailleurs à attendre pour poser des questions. Il y a Nicolas qui attend depuis un moment, mais je suis désolée, on n'a pas le temps. On refera des émissions là-dessus. Merci vraiment beaucoup, professeur Jean-Claude De Haro, d'être intervenu. Je rappelle
Merci.
Que vous travaillez au CHU de la Timone à Marseille. Merci aussi beaucoup, Denise Dessau. Et merci à France Bleu Provence, qui nous a permis d'établir cette liaison avec Aix-en-Provence. On va terminer en parlant d'un rapport international de Médecins du Monde sur les questions de difficultés d'accès aux soins. On a au téléphone Nathalie Simoneau. Bonjour, Nathalie Simoneau.
Bonjour, merci de me recevoir.
Oui, merci beaucoup. On a juste 3 minutes, donc on va aller vite dans le concret. Vous êtes chargée des programmes nationaux et du plaidoyer pour le réseau international de Médecins du Monde. D'abord, sur quelle population a porté votre rapport?
En fait, sur plus de 23 000 patients que nous avons rencontrés dans 25 villes. D'Allemagne, de
Belgique, il faut vraiment que vous parliez bien près du téléphone.
Des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Turquie, de Suède, de Suisse, au cours de plus de 42 000 consultations. Donc en fait, c'est très large. Et ce sont toujours des personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins, quelle qu'en soit la raison. Dans la plupart des pays, c'est à cause de législation qui les empêche d'accéder aux soins ou de coûts pour les soins auxquels ils ne peuvent pas faire face, puisque l'immense majorité des gens qu'on voit, si ce n'est pas la totalité, vivent largement en dessous du seuil de pauvreté.
Et justement, quelles sont les causes de ces difficultés d'accès aux soins?
Alors, dans les causes d'accès aux soins, il y a tout un panel. Je dirais le premier, peut-être l'une des premières causes, c'est que les gens ne connaissent pas bien le système de santé. Il y a aussi des législations qui, en fait, empêchent les gens d'accéder aux soins. Par exemple, quand on n'a pas droit à une couverture maladie, comment les gens les plus pauvres peuvent-ils payer pour leurs soins ? C'est strictement impossible. Et partout, il n'y a pas de couverture maladie universelle, ce qu'on appelle vraiment de nos voeux pour l'ensemble du globe, eh bien, les gens ne peuvent pas accéder aux soins.
Et qu'est-ce que vous demandez, alors, justement ? Alors, cette couverture maladie universelle pour tous ?
Mais on demande aussi, surtout immédiatement, parce qu'on sait que la couverture maladie universelle pour tous, c'est pas encore pour demain matin. En revanche, pour aujourd'hui, cet après-midi, on voudrait que tous les États membres, au moins de l'Union européenne, garantissent un accès complet aux vaccinations pour tous les enfants et à des soins, et le suivi prénatal et postnatal des femmes enceintes. C'est quand même horrible de voir qu'en Europe, aujourd'hui, on a plus de la moitié des femmes qu'on a vues qui n'avaient pas de soins prénataux et les deux tiers des enfants qui n'avaient pas été vaccinés. C'est insupportable.
Donc c'est vraiment déjà les demandes de base. Pardon. Merci beaucoup hein, Nathalie Simoneau de Médecins du Monde. Dans ce rapport, hein, vous démontez aussi le mythe de la migration pour raison de santé. On y reviendra un jour plus longuement sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Lundi, oui, je vous propose...
C'est vraiment un mythe.
C'est vraiment un mythe hein, qui est à démonter. Absolument, absolument. On y reviendra, hein, je vous le promets, on en reparlera. Merci beaucoup. Hein. Lundi, je vous propose un reportage sur la vaccination, justement, contre la polio. Là, on sera en République démocratique du Congo. On parlera aussi des difficultés d'accès aux soins dans ce pays. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké. Bonne fin de semaine, bon week-end. On se retrouve donc lundi.